L'église bousculée, un risque ou une chance? Les institutions de l'église, entre stabilité et ouverture, une dynamique difficile aujourd'hui. Avec Mgr Jean Passicos.
Nous embrayons avec Mgr Jean Passicos. Longtemps professeur de droit canonique à l'Institut catholique de Paris, retiré aujourd'hui de l'enseignement, mais pas de la réflexion, ni de l'accompagnement des étudiants, grâce à Dieu, puisque vous allez pouvoir en bénéficier, certains d'entre vous, ceux qui auront choisi son intervention, comme le sujet de validation, qui va nous entretenir des institutions de l'Église entre stabilité et ouverture, une dynamique difficile aujourd'hui.
Heureux de vous retrouver. Je suis fier de mon titre, je le suis moins de mon exposé. C'est un champ bien vaste que celui des institutions. Cela va du Saint-Père, qui est à lui seul une institution, jusqu'à la dame catéchiste, qui elle fait partie d'une paroisse dans laquelle elle exerce sa mission de catéchiste. Par institution, je précise, j'entends donc ici toute organisation stable, support d'une vie collective, support d'une vie pastorale, et aussi support d'une vie chrétienne individuelle à l'intérieur de la collectivité, de la communauté. Et donc, en même temps que je parle de l'institution objective, je ne peux oublier les questions que cela pose sur le plan concret. Car une institution, ce n'est pas au plafond, hein, il faut la mettre en place et vivre de ce qu'elle nous dit. Je prends un exemple, le parcours Alpha, qui n'est pas obligatoire. Ainsi, une institution. Il est du domaine de la catéchèse. Quel lien a-t-il avec la liturgie? En quoi intéresse-t-il l'autorité de l'Église, l'autorité hiérarchique? Vous avez là les trois mounous, les trois fonctions qui se trouvent intéressé par cette institution, qui est une institution qui se cherche, mais qui est née de la réalité pastorale telle que nous la connaissons. C'est un exemple que je vous donne, vous saurez faire, vous, les applications à vos institutions, aux questions que vous vous poserez, avec ce que j'ose vous dire en ce moment. Vous savez, Mgr Théas, à qui on reprochait, évêque de Tarbes et Lourdes, à qui on reprochait de ne parler que des hommes, il disait « Quand je parle des hommes, j'embrasse les femmes. » Eh bien, vous saurez faire des applications aux institutions qui vous intéressent. Oui, l'Église bousculée, elle l'est dans ses institutions. Mais toutes les institutions sont bousculées. Je ne peux pas mettre l'Église à côté, hein, de ces changements du monde d'aujourd'hui. Toute vie en société est bafouée, elle est bouleversée, car les institutions sont des pivots dans la vie sociale, sont des pivots par leur stabilité, par tout ce qu'elles portent d'hier, et ce qu'elles peuvent porter pour demain. Donc aujourd'hui, l'Église, ce qu'elle vit, elle n'est pas la seule à le vivre. Et puis on se rend compte qu'au fond, quand on touche les institutions, pas forcément les petites, mais quand on touche les institutions, ce sont des choix de société que l'on fait, ce sont des choix d'Église que l'on fait, et nous sommes devant des choix d'Église à faire. Donc je vous livre quelques pistes de réflexion. C'est tout. Je n'ai pas une autre prétention. Et d'abord, j'ai, comme je vous le dis, à regarder ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on demande aux institutions aujourd'hui ? On demande transparence et authenticité. On demande efficacité et crédibilité. Et on pose la question de leur légitimité. Eh bien, l'Église est touchée sur tous ces points-là. Tous. Et alors, quand il y a des dysfonctionnements, comme ceux que l'on a évoqués hier avec la crise que nous connaissons, c'est un grave dysfonctionnement, cela va très loin, ça touche tout. La transparence, la crédibilité, l'authenticité, la légitimité même de l'autorité. Donc, je voudrais regarder avec vous ce contexte, parce qu'il nous touche, nous y sommes dedans. Il n'est pas extérieur à nous, nous ne sommes pas extérieurs à lui. Le contexte général aujourd'hui se présente dans toutes les institutions avec un côté individualiste très fort. Ça, ça nous touche beaucoup. Un individualisme de plus en plus exacerbé, de plus en plus théorisé. On le voit bien dans toutes les sciences sociales, même économiques. Individualisme, mais l'Église, elle connaît la personne. C'est la personne qui est sauvée, c'est pas l'Église, c'est pas la communauté qui est sauvée, c'est la personne. Comment peut-on retrouver cette demande individualiste très forte, qui pose des problèmes d'ailleurs de philosophie, d'anthropologie? Cette demande d'égalité que nous avons partout et qui est fondée sur les droits des personnes, le droit de l'homme. Ce droit, ce domaine qui est de plus en plus variable, varié et de plus en plus exacerbé. C'est mon droit. C'est mon choix. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles dans nos églises il y a peu de monde le dimanche. Je fais le choix. C'est la question de la liberté. Toutes nos institutions sont touchées par cela. Et puis il y a aussi l'opinion. L'opinion joue un très grand rôle. L'opinion difficile à endiguer. Et dans l'Église, on n'aimait pas trop l'opinion. Nous avons des textes là-dessus qui ne sont pas jolis aujourd'hui à lire. Mais l'opinion, elle est un peu folle. Parce qu'il lui manque les repères historiques. Elle vit du moment. Oui, les médias jouent aussi un grand rôle. Et s'ils sont contestés aujourd'hui par ce que vous savez, ce n'est pas pour rien. Ils sont fragiles aussi comme institution. Enfin, un contexte qui donne à voir un monde d'immanence. L'immanence est devenue transcendance. On se suffit à soi-même. On n'a pas besoin d'une transcendance qui viendrait d'ailleurs. L'hétéronomie n'est pas bonne, d'ailleurs, sur le plan législatif. Hein. La loi vient d'ailleurs. Et lorsqu'il s'agit d'une transcendance révélée, cela ne passe pas. Donc, la mentalité actuelle, c'est celle-là que nous respirons. C'est ça que respirent nos gens, nos fidèles, s'ils ne sont pas aidés. Et puis il y a les problèmes nouveaux, les problèmes que la technique, la technologie, les sciences ont fait surgir et qui font mal à l'Église parce qu'il faut à tout prix qu'elle prenne ses marques par rapport à cela. Oui, ces questions nouvelles sont traumatisantes pour nos institutions d'Église. On ne sait pas comment les aborder. Et puis, chez nous, le religieux n'a pas pignon sur rue. Il est renvoyé à la sphère du privé, de la conscience, de la sacristie. Et nous voyons les débats de notre épiscopat là-dessus. Quelle position prendre dans un monde laïque? Enfin, je dirais, les mentalités qui sont autour de nous sont de plus en plus formatées par tout cela. Nos fidèles pensent comme ce qu'ils entendent, comme ce que tout le monde pense, comme tout ce que le monde dit. Le légal et le moral, c'est la même chose. Oui, nous sommes formatés par cela. Je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure, si bien que les lois permissives de la cité sont devenues des lois impératives. Regardez pour l'avortement, il est interdit d'aller contre, d'avoir une position publique contre. Nous sommes formatés par cela. Enfin, nos institutions sont mal à l'aise avec l'éloignement pratique et très grand des baptisés. Sont partis, se sont éloignés. Et quand j'entends à Noël, il y avait beaucoup de monde, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un reste qui demeure et que nos institutions doivent tenir, dont elles doivent tenir compte. Il ne faut pas éteindre la mèche qui fume encore. Est-ce que nos institutions sont prêtes à cela? Ou est-ce qu'elles sont fermées dans les habitudes, dans ce que l'on fait? On continue de célébrer la messe dominicale avec peu de monde, comme si l'église était pleine. Mais notre liturgie, comment s'est-elle adaptée à cela? Ce qui ne veut pas dire qu'on puisse faire n'importe quoi. Et alors, ce que je vois, c'est que nos institutions, les institutions, sont toujours au centre d'une culture. Toujours. Or, qu'est devenue la culture chrétienne? Est-ce que nos institutions surfent sur une vague? Mais qu'elles n'entrent pas dans la vague? La culture a changé. On le sait bien. C'est pas sûr qu'on le voit. Quand je vois l'assistance dominicale à laquelle j'assiste moi-même, dont je préside parfois la présence, mais on est là, on vit quelque chose. On vit, on prie, on croit, oui. Mais est-ce que c'est porteur de quelque chose de neuf? Nous sommes dans une culture sécularisée, post-chrétienne. Il y a encore des choses chrétiennes qui sont là, mais elles sont sécularisées. Noël, sécularisé. Pâques, avec son chocolat, sécularisé. Et puis c'est la fête de printemps, et c'est la fête de l'automne, et c'est la fête de la musique, c'est la fête... On vit dans ce monde-là. Alors, nous chrétiens, quelle est notre culture? Il ne s'agit pas de faire une contre-culture. D'abord, on n'en a plus la force. Je parle pour notre pays. On n'en a plus la force. Et puis, est-ce que c'est l'idéal? On a eu une culture chrétienne, nous ne l'avons plus. Le Concile Vatican II, d'ailleurs, nous a orientés vers un autre type de présence au monde. Il nous a orientés vers cela. Et nous avons à le vivre, à le trouver. Nous ne l'avons pas fait encore. Nous sommes au commencement d'une situation devant ce monde indifférent. C'est l'indifférence qui touche même nos chrétiens, car ils font des choix. C'est ce que je disais tout à l'heure, l'individualisme, tout ça. On fait un choix, mais finalement on est indifférent sur beaucoup d'autres choses qui sont essentielles. Quelle sociabilité chrétienne devons-nous former aujourd'hui? C'est l'un des points majeurs pour nos institutions. Et puis, dans un monde de plus en plus fondé sur le consentement, c'est-à-dire sur le contrat, l'Église se présente comme celle qui vient d'ailleurs. Je le disais tout à l'heure pour la transcendance, mais elle vient d'ailleurs. Je n'entre pas dans l'Église par un contrat. J'y rentre par une adhésion qui me donne un statut objectif du baptisé. Je ne suis pas contractuel, même moi prêtre, avec mon évêque ou avec mon église. Bien sûr qu'il y a des éléments contractuels lorsqu'il s'agit de vivre, de choisir une modalité de vie, etc. Il y a toujours. Mais le fond, il n'est pas contractuel. L'adhésion au Christ, elle n'est pas contractuelle. Adhésion à l'Église non plus. Et c'est ici que nous pouvons retrouver aussi les problèmes de l'anthropologie chrétienne qui touche nos institutions, qui est très différente de l'anthropologie du monde actuel issu des Lumières. Par exemple, on ne peut pas s'engager pour la vie en droit civil français. C'est pas possible. Or, l'Église fondée sur l'engagement du Christ, elle le soutient dans son anthropologie, qu'il est digne, au sens près, de s'engager pour toujours. Je me souviens de cette mère générale qui me téléphone angoissée parce qu'elle demandait la reconnaissance au service des cultes du gouvernement, la reconnaissance donc de sa congrégation, ça a été refusé parce que, mal conseillé sûrement, elle avait mis que donc les vœux perpétuels, ça a été refusé. Elle vient me voir. J'ai dit, ma sœur, il faut trouver quelque chose, il faut trouver une solution juridique. Il y en a, toujours. Il faut tirer le bon tiroir. Alors je lui ai dit, mettez un engagement à durée indéterminée. Elle m'a dit, mais non, c'est pas possible. Indéterminée, ça peut être toujours, ça peut être pour un temps. Vous voyez, c'était pas contradictoire.
Elle était d'accord.
Elle l'a fait volens nolens. Elle a envoyé au service du ministère de l'Intérieur et c'est passé. Mais c'est pour vous dire, moi ce que je dis là, c'est un peu entre nous, parce que c'est on sait de quoi il s'agit, mais que vivent nos gens? Alors vous avez beau leur dire l'évangile, c'est vrai, c'est Jésus, c'est ça qui est essentiel, mais il faut après pouvoir se l'approprier, en vivre dans des conditions particulières. On remet en question le célibat. J'ai vu encore tout récemment un livre que l'on m'avait passé, très intéressant. On s'engage pour un temps. Pourquoi pas? Mais quel est l'enjeu? Pas simplement l'enjeu anthropologique, mais l'enjeu chrétien au sens par rapport au Christ. Quel est l'enjeu de la mission? C'est tout ça. C'est ça qu'il faut. Il faut pas lancer. Comme on le lance, comme on l'a fait si souvent, on lance quelque chose, et puis voilà, et puis c'est contraire. Je préférerais que ce soit contradictoire, c'est pas pareil, mais là c'est de l'ordre de la logique. Oui, le mystère de l'Église, à travers ses institutions, est chahuté. Et pourtant il est là, les institutions sont bien là. Alors, quand je regarde, voyez, après avoir regardé ce côté général, car je crois qu'il faut bien le voir en face, on ne peut pas faire une évangélisation en plaquant quelque chose, mais en transformant. Et la transformation des mentalités, des cœurs, des esprits et des comportements, car ils sont eux aussi mis à rude épreuve, c'est en faisant cela que nous pouvons envisager vraiment une évangélisation. Mais de fait, l'Église a réagi. Ne croyez pas que... Je ne suis pas pessimiste, je ne dis pas qu'elle est acculée à beaucoup de choses. C'est vrai qu'elle l'est, c'est vrai. Mais en réalité, elle réagit. Il y a des institutions nouvelles qui sont arrivées. Hier, on parlait des soins palliatifs. Ce n'est pas rien. Comment l'Église voit-elle cela? Et comment ça passe dans les mentalités? Et ça ne peut passer qu'à travers une institution, ne serait-ce que celle d'enseigner, de témoigner. On n'est pas dans l'individuel pur et simple. Et elle cherche l'Église, elle cherche comment se positionner. Mais c'est difficile parce que le monde est fluctuant. Il est instable, profondément instable, et l'Église doit accepter cette instabilité du monde, par force, mais plus que par force, pour vivre sa propre instabilité, même s'il faut des institutions stables, des institutions repères, car l'Église a 2000 ans en plus même. Et dans ces 2000 ans, je vous le dirai tout à l'heure, elle a dû affronter pas mal de crises. Elle réagit. On dit que le pape François, je vais y arriver dans un moment, le pape François est vraiment un réformateur comme l'a été Grégoire VII. C'est pas la même situation. Grégoire VII a pris une église en pleine crise. Et il a renouvelé les institutions. Mais Grégoire VII était aussi un spirituel. Et quand nous regardons le pape François, c'est un spirituel. Non pas parce qu'il est jésuite, mais parce qu'il est spirituel fondamentalement. Après, avec son option jésuite. Donc, l'Église aujourd'hui, si elle veut réformer ses institutions, si elle veut en mettre en place d'autres, il faut qu'il y ait ce côté spirituel. Quand tout à l'heure j'invoquais l'individualisme et la conversion, c'est un peu antagoniste. N'empêche que ça se rejoint. Donc, il faut bien que l'Église regarde. Autour d'elle, regarde en elle, regarde sa tradition pour préparer à travers le présent l'avenir. Nos institutions permettent la cohérence de la vie chrétienne. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la cohérence de la vie du fidèle avec lui-même, sa conscience, mais aussi avec l'Église et son message, et avec la vie de la communauté dans laquelle il est. La cohérence de la vie de nos communautés et la cohésion de nos communautés. Quand tout à l'heure je parlais de sociabilité à chercher, et c'est vrai qu'on a parfois du mal dans ce monde individualiste, même s'il a beaucoup de choses collectives qui sont belles, on a du mal. Et là, quelle est la nouvelle cohésion de nos communautés? Pas simplement la communauté locale, mais la communauté de toute, qu'est toute l'Église. La hiérarchie joue son rôle, mais elle n'est pas que l'Église. Et quand je l'ai dans ma serviette là, je lis la petite lettre apostolique du pape François sur le peuple de Dieu, sur les laïcs. On n'en parle pas de cette lettre apostolique parce qu'elle fait peur, elle nous gêne. Mais c'est le peuple de Dieu qu'il met en avant. Et s'il a pu écrire au peuple de Dieu, pas que d'autres chefs de gouvernement écrivent à leur peuple. Hein? C'est parce qu'il sait que le peuple de Dieu est, c'est lui qui est porteur de l'Alliance. En tout cas, la mutation de l'Église, elle est grande dans un contexte qui la touche intérieurement. Le nombre des ministres, c'est pas parce que l'un ou l'autre s'en va, ou qu'on ne renouvelle pas, mais c'est le nombre qui fait problème. On ne va pas pouvoir tenir longtemps comme on a fait, même encore aujourd'hui, comme on fait. C'est pas possible. Le nombre des ministres entraîne un changement dans la vie chrétienne. Très fort. C'est la vie sacramentaire, c'est la vie des communautés. Donc, il y a des choses qu'il faut trouver, qu'il faut innover. Hein. La crise des vocations, elle est qualitative. Elle n'est pas quantitative. Elle est devenue qualitative pour l'Église. Et puis, j'ajouterai, parce que je l'entends autour de moi, la crise des vocations atteint tous ceux qui ont des tâches dans l'Église. Comment renouveler les catéchistes par-ci, d'autres ministres par-là? Une crise des vocations qui est très profonde. Et là aussi, j'ai peur qu'on aille vers du qualitatif, c'est-à-dire c'est la communauté qui est touchée. La vie de la communauté. Donc, il faut voir de près comment l'Église réagit. Elle ne peut pas ne pas réagir en innovant, en adaptant les vieilles institutions et en innovant, en cherchant d'autres institutions, d'autres moyens, mais toujours hantée sur sa tradition. Avec ce que j'appellerais le sentire cum ecclesia, sentir comme l'Église. Je le dirai tout à l'heure en conclusion avec la communion. Saint Augustin m'a mis sur ce chemin. Vous le connaissez mieux que moi. Tu inventes les préfaces. À son époque, or la préface est la grande prière eucharistique, elle existait déjà. Mais ce n'était pas fixé comme maintenant. Et saint Augustin a dit, tu inventes, à condition que tu fasses, comme fait l'Église. Que tu fasses selon sa tradition. Et moi qui ai fait, quand j'étais vicaire général à Paris, moi qui ai fait la visite canonique au nom du cardinal Lustiger, d'une communauté qui avait 80 ou plus prières eucharistiques, bon, j'ai fait cette visite contre le gré du cardinal. Je me suis, finalement, il m'a dit, faites. J'étais tellement suppliant, pour ne pas dire têtu, que finalement, je l'ai faite. Et je lui disais, voilà, donc j'ai vu comment vivait cette communauté chrétienne. Elles se disaient, elles avaient l'Eucharistie, avec tout un tas de prières eucharistiques. Hein. Il y avait quand même, selon la tradition latine, il y avait les paroles de l'institution, dont vous savez qu'il y a une tradition qui est reconnue par notre Église, qui ne comporte pas les paroles de l'institution, et c'est quand même l'Eucharistie. Si je dis ça, c'est pour vous dire, attention, regardons de près ce que nous pouvons faire hein, et comment le peuple réagit. Donc, j'ai dit au cardinal, vous savez, monsieur le cardinal, bon, ils en avaient 80, j'ai regardé, bon, ils en auront 60 dans quelques temps, dans quelques années. C'est ça la durée aussi des institutions. Mais... quand je leur ai parlé de leur préface, on loue l'homme qui fait ceci, l'homme qui sait faire, même s'il est fils de Dieu, c'est lui. Oh, regardez les préfaces de vos Eucharisties, c'est Dieu qui est loué. Et l'homme est à l'intérieur. Vous voyez, Augustin, moi, il me rejoignait à ce moment-là. Il me rejoignait, inventé, mais selon l'esprit de l'Église, Sanctae cum Ecclesia. Je prends la question de l'avortement. Ah, on n'en parle pas. Maintenant, c'est devenu tabou chez nous. Parce que dans la cité, on ne peut pas en parler. Qu'a fait le pape François ? Le pape François a donné à tous les prêtres le pouvoir de pardonner, de relever de l'excommunication. Il réagit juridiquement, le pape, parce qu'il ne veut pas condamner. Mais il n'accepte pas l'avortement. C'est intéressant comme réaction. Très intéressant. Eh bien, ça, je n'ai pas entendu en chair dire, ouvertement, dans une assemblée, vous savez, le pape a pris cette décision. C'est un des petits communiqués par-ci, par-là. On ne vit pas avec le peuple. Bon, je prendrai d'autres. La procédure de nullité des mariages. Là aussi, le pape a réagi quand il voit comment les divorces sont si nombreux. Il réagit en disant, mais voyons, allez, allons, cherchons les nullités, car il y en a plein, plein, plein. Réaction de l'Église. La rénovation de la procédure des nullités de mariage. Intéressant. La loi de la pénitence. Hier, c'était vendredi. La loi divine, dit le Concile Vatican II, et dit le Code après lui, le reprenant. La loi divine dit, faites pénitence. Parce que vous êtes des convertis et jamais finis. Donc, offrez votre vie. La pénitence, c'est cela. Et alors, le vendredi demeure comme jour de pénitence pour toute l'Église. C'est la tradition fondamentale sur le vendredi saint, sur la rédemption. C'est ça. Bon, l'Église maintient le vendredi comme jour de pénitence pour toute l'Église. Alors, bien sûr, passons sur le poisson, passons sur tout cela. Mais oui, parce que l'Église a dit aux conférences épiscopales, a précisé localement, selon les régions, quel sera le mode de pénitence. Et la conférence épiscopale française, elle a donné une série de... Puis débrouillez-vous, choisissez votre pénitence vous-même. Intéressant. Hier, vous avez fait pénitence, comme moi, en écoutant tous ceux qui ont bien parlé. Tous ceux qui ont bien parlé, mais quand même... Vous voyez comment, ici, si c'est une loi divine, alors ne revenons pas sur ces catégories, mais si le vendredi m'aide à me convertir, comme c'est un jour particulier, qu'est-ce que je fais comme pénitence? Qu'est-ce que je vais prendre sur moi? Non pas me supprimer n'importe quoi ou ajouter n'importe quoi, non, mais... Pour grandir dans l'Évangile, pour grandir, qu'est-ce que je fais? Et là, c'est en communion avec toute l'Église, avec le Christ rédempteur. Alors, on a eu une législation qui renvoyait aux quidam fidèles de faire finalement dans cet esprit ce qu'il veut. Il ne fait plus rien. Vous voyez, c'est difficile, il faut le reconnaître. D'où cette décentralisation qui est importante. La crise de la pédophilie, qui est dramatique. Mais qu'est-ce qu'elle est? Elle est révélatrice des profondes lacunes canoniques de l'Église. Quand je lis la lettre du pape Benoît XVI à l'Irlande, il ne mâche pas les mots. Il dit aux évêques, vous n'avez pas su gouverner parce qu'on a peur de dire ceci. On a peur, vous voyez, l'esprit mondain. L'esprit mondain est venu chez nous. Il nous a pris, même dans notre gouvernement. Alors il est difficile, effectivement, de pouvoir faire jouer nos institutions pour ce qu'elles sont et à l'intérieur de ce qu'elles sont. L'esprit mondain, le pape François, qu'est-ce qu'il reproche? Pas simplement aux évêques, hein, mais à nous aussi, d'avoir l'esprit mondain. Ce que je disais tout à l'heure, nos mentalités sont formatées par cet esprit mondain. Je prends un exemple. Ce qui est arrivé, vous l'avez tous lu, le prêtre Pierre Vignon, dans sa lettre de demande au cardinal Barbarin de démissionner. Pierre Vignon, je le connais bien, il a été mon étudiant, il n'a pas reçu tout ce qu'il avait. Enfin bref. Bon. En tout cas, Pierre Vignon, donc, a écrit bon, cette lettre. Il a oublié une chose. Alors, il a dit, le pape nous demande d'intervenir, nous demande de prendre position, d'aider à cette conversion de l'Église. Il a pris ce moyen, sans trop réfléchir à l'impact que cela aurait. Hein? Car dans l'Église, il y a un canon qui dit, utilisez vos droits, mais toujours en tenant compte de ce qu'est l'Église. Pas de ce qu'elle demande, pas de ce qu'elle souhaite, de ce qu'elle est. Et Pierre Vignon avait oublié cela. Il aurait pu écrire sa lettre directement au cardinal, hein, mais voilà, il l'a lancé, et puis tout ça, ça a pris des proportions hein, qui finalement portent atteinte non seulement au cardinal Barbarin, non seulement à l'Église, mais aussi à Pierre Vignon. Vous voyez, l'esprit du monde nous tient. Vous êtes mondain. Le pape François le dit. Alors le pape François, je vais en terminer parce que le temps passe. Le pape François a mis quand même cette église sur des rails. La synodalité. On n'en a jamais autant parlé. Hein? C'est quelque chose de majeur. Qui est vieux comme l'Église, presque. On a parlé tout à l'heure des conciles. C'est vieux comme l'Église. Alors, on a des synodes diocésiens, on en fait un grand truc, et puis on oublie que c'est une démarche et que peut-être il faut renouveler cela. Autrefois, le droit ancien disait c'est régulier vos synodes diocésiens, mais c'était une chrétienté, donc ça pouvait se faire. D'ailleurs, rien n'en sortait forcément de bon. On répétait. Bon, la synodalité, d'ailleurs le pape a dit qu'il réformait aussi le synode des évêques. Alors ça aussi c'est intéressant comme structure nouvelle. Il y a trois types de synodes. Paul VI a été génial, si j'ose dire, hein, quand il a institué le synode et que le concile l'a accepté, car c'est une institution pontificale avant d'être une institution conciliaire. Il y a trois types de synodes, et jouer avec. Et le pape François joue avec, si l'on peut dire, pour répondre à l'Église, hein, aux besoins dont il sent l'urgence. La décentralisation, voilà un autre rail sur lequel le pape met notre Église. La décentralisation. Il met notre Église sur le plan de l'engagement social. C'est peut-être un moyen très fort pour retrouver pignon sur rue, ce que je disais tout à l'heure. Hein? On en a beaucoup de structures sociales, et heureusement, mais dans l'Église aussi on en a, et le pape, là, il insiste beaucoup. Hein? La miséricorde, il a mis l'Église sur ce chemin de miséricorde, que, me semble-t-il, parfois on a pris comme tolérance. Le pape n'a jamais toléré le mal. Il a regardé les personnes. Et c'est cela qu'il faut voir, d'abord. Alors, le mal, il est là, Mais, voyez, moi, il m'a semblé une fois ou l'autre qu'on avait pris la miséricorde, bon, c'est pas, faut être miséricordieux avec tout le monde. Finalement, on allait bonasse. Notre Dieu est bon, il n'est pas bonasse. Des institutions d'accueil, on en a. De présence, on en a. Mais comment renouveler tout cela? Comment les adapter à ce monde tel qu'il est? Enfin, je dirais, le pape, je l'ai dit tout à l'heure, a une vision du peuple de Dieu. L'esprit est là, dans le peuple. Quand je regarde une différence entre Benoît XVI et François, Benoît XVI a dit, il faut des petites communautés qui soient minoritaires, elles le sont, mais vivantes. Benoît XVI a dit cela. Petites communautés vivantes qui sont donc vraiment à l'action, témoignage. Hein. C'est ça. Ça, c'était ce qu'a dit Benoît XVI. Le pape François, sans nier cela, car il faudra toujours, hein, le pape Benoît XVI, le pape François, lui, a dit, je regarde le peuple. Alors, je vois que l'heure juste, je vous donne trois conclusions. Je passe sur beaucoup de choses. Vous saurez faire, vous, ce qu'il faut. S'il y a une chose, quand même, que je veux dire, une chose avant mes conclusions. Le Concile a bien mis en valeur l'égalité entre tous les baptisés, entre l'égalité au niveau de la personne et au niveau de la fonction. Toutes les fonctions sont égales. Vous vous imaginez? C'est repris par le Code. Et quand je faisais des sessions à des prêtres, la première chose passait bien. Égaux en dignité. D'ailleurs, les droits de l'homme nous l'ont dit déjà par notre naissance. Égaux en dignité par le baptême, par la fonction. Tant que l'esprit ne m'aura pas fait comprendre que la maman qui apprend le Notre Père à son gosse, c'est aussi important que lorsque l'évêque fait une ordination, parce que le corps du Christ grandit là. C'est pas la même chose. Il faut reconnaître les différences de fonction. Ça, il le faut. Mais tant que je n'aurai pas compris que ça, c'est le royaume qui avance des deux côtés, différemment, mais il avance. Eh bien, j'ai vu les réactions des prêtres. Les fonctions, on est tellement fonctionnaires ou fonctionnalisés ou missionnalisés, j'en sais rien, mais le baptisé lui-même, il est porteur de tout cela, du royaume à bâtir, à construire. Je tenais à vous le dire ça, parce que ce canon ne passe pas, ce canon, cet enseignement conciliaire, il a du mal à passer. Nous sommes encore dans des hiérarchies, hein, conceptuelles qui ne sont pas bonnes. Trois conclusions. Une, c'est dans le cadre de la nouvelle évangélisation que semblent désormais se situer nos institutions. La nouvelle évangélisation, nous ne faisons que commencer. C'est maintenant, me semble-t-il, la toile de fond de tout. On recommence, mais on ne recommence pas en partant de rien. On recommence avec toute une Église qui connaît le Christ et qui l'a annoncé depuis tant d'années. Voilà, la nouvelle évangélisation. On balbutie, on met une rustine par-ci, une rustine par-là. Mais je crois que ça va beaucoup plus grand, beaucoup plus loin que cela. Cela nous oblige à faire des grands choix. Des grands choix d'Église. Abandonner ce qui est obsolète, le pape nous l'a dit, ce qui est devenu inutile et peut-être devenu nocif pour la vie de l'Église aujourd'hui. Et faire des choses nouvelles, selon ce que je vous ai dit, dans la tradition de l'Église, dans le Sanctiricum Ecclesia. Et cela m'amène à ma deuxième conclusion. C'est le concept de communion qui est à creuser encore, qui est à renouveler. Qu'est-ce qui fait la communion dans notre diversité, dans nos choix qui paraissent parfois irréductibles? Qu'est-ce que c'est qui brise la communion? Là, je parle en juriste. Quelle solidarité avons-nous entre nous, chrétiens, par le baptême, la même foi, la même charité et la même espérance? Je me surprends parfois à me dire, il faut relire l'Lumen Gentium, le relire dans le cadre d'aujourd'hui, dans le contexte d'aujourd'hui. L'Lumen Gentium est un texte valable, qui a son histoire, mais pour le vivre, pour le comprendre et pour l'appliquer, c'est aujourd'hui que je dois le redire, le relire, le comprendre. Ça, c'est ma deuxième conclusion, la communion. Pour mon troisième, le champ des institutions est vaste. Les choix à faire, à changer, à continuer dans les valeurs profondes, en se référant à la tradition, que nous ayons le sens qu'aujourd'hui, nous vivons un moment de la tradition fondamentale de l'Église. Et l'histoire nous dit, les changements, ils viennent rarement d'en haut. Ils viennent très souvent d'en bas. C'est l'histoire de l'Église qui nous le dit. Les initiatives viennent souvent d'en bas, avec des charismes des uns, des autres. Si ça réussit, eh bien, tant mieux. Si c'est un échec, enfin si ça ne réussit pas au bout d'un certain temps, si c'est épuisé, eh bien, on passe à autre chose. Oui, je crois fortement que ça viendra d'en bas. Mais quand je vois le pape François, comme Benoît XVI d'ailleurs et comme Jean-Paul II, chaque pape et chaque évêque a son propre charisme pour gouverner son Église, mais quand je vois qu'ils nous mettent sur des pistes, des sentiers, des routes à baliser, eh bien, je me dis, c'est le peuple de Dieu qui doit là réagir et qui réagira. Je ne sais pas comment. Pour le moment, vous me direz, le peuple s'est éloigné. Pas tous, heureusement. Mais que faire avec ceux qui sont restés? Il ne faut pas les ignorer. La justice et la charité nous obligent à vivre avec eux et à les aider à aller jusqu'au bout de leur chemin. Mais les grandes institutions, beaucoup sont venues d'en bas. François d'Assise n'est pas venu d'en haut. Mais il s'est inclus, il s'est compris comme un membre de l'Église, le Sanctiricum Ecclesia, j'y reviens, il est là essentiel pour nos institutions, afin qu'elles puissent donner un peu de ce qu'elles révèlent, de ce qu'elles servent, le mystère de l'Église. Je vous remercie.